Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h.
L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis.
L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale.
Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66.
Par mail à l'adresse 94degrésalombre@protonmail.com
ou par courrier à l'adresse Canal B 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes.
Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B.
Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre.
A tout de suite!
Salut à toutes et tous. On est le dimanche 10 août, il est midi. Et comme chaque dimanche, il est l'heure de 94 degrés à l'ombre. 94 degrés à l'ombre, c'est une émission de radio qui consiste à partager des messages, des morceaux de musique, et des textes entre les prisonniers, prisonnières et leurs proches. Et dans une deuxième partie d'émission, à parler d'anticarcéralisme, des raisons pour lesquelles un monde sans prison serait meilleur pour tous et toutes. Donc pour aujourd'hui, on a reçu des messages de la part de la famille Germain pour Aurélie, de la part de Claudette, Bernard et Romain pour Aurélie. On a reçu un message de Orman pour Kalei, un message vocal de Kalei pour Orman. On a reçu un message de Kat et Lily pour leur papa Norman. On a reçu un message vocal de Diane pour Mourad, une dédicace de Fred pour Pascaline, un message de Malika pour Norman et des morceaux de Bruno pour sa femme et de Bruno pour sa belle-sœur. Comme d'habitude, juste avant de vous partager tout ça, je vous propose un petit morceau d'introduction. C'est un morceau un peu calme pour débuter cette journée du dimanche. Ça parle de lutte contre l'oppression, pour la liberté. Ça s'appelle Le Pieu de Marc Robin. C'est une réinterprétation en français du morceau L'Estaca, que vous connaissez peut-être. En tout cas, je vous partage ça. Bonne écoute et à tout de suite.
Je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés, tant qu'il sera planté comme ça, n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si il tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons commerçant d'étaler. Un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La, la.
C'était donc le morceau Le Pieu de Mark Robin. Et je vais commencer à vous diffuser du coup les messages qu'on a reçus. On espère que vous pouvez nous recevoir pour les personnes qui sont à l'intérieur. On sait que des fois il y a des brouilleurs d'antenne, enfin même pas des fois, mais il y a des brouilleurs d'antenne, etc. Donc on espère que vous allez pouvoir recevoir tout ça quand même. Et du coup on commence avec un message qu'on a reçu de la part de la famille Germain pour Aurélie. Donc des parents d'Aurélie pour Aurélie. Et il y a un morceau qui suit qui sera Un peu de rêve de Vita et Claudio Capeo. Du coup je vous partage le message et juste après le morceau.
Bonjour Aurélie de la part de papa et maman. On espère que tu vas à peu près bien. Bon courage pour la semaine prochaine et puis fais attention à toi. On t'embrasse très très fort et puis très gros bisous et à bientôt.
Bonjour Aurélie, c'est maman. J'espère que ça va. Hein. Tu fais attention à toi et tu prends soin de toi. On t'embrasse très très fort et on te fait plein de gros bisous. Bisous.
Comme on se couche, on se lève. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent tirer sur nos rêves. Ils le font pour de vrai.
Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les traits. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix.
Ce monde n'a plus d'âme.
Ce monde n'a plus d'âme. J'ai plus de temps.
Sauvez-moi ici, je crève.
J'ai plus de temps.
Je veux déployer mes ailes.
M'envoler.
Je suis tellement sale, ça m'obsède.
Je cherche la paix.
On fait semblant, nos cœurs s'éteignent.
On est tous des mères.
Avant que la lumière s'éteigne.
J'ai tout à donner.
Vendez-moi un peu de rêve.
J'ai plus de cran. Je cherche la paix.
Je cherche la paix.
Le choix c'est marche ou crève.
On veut juste exister.
Ils ont peur qu'on s'élève.
Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi du pantin c'est lequel qui dit la vérité.
Ce monde n'a plus d'âme.
Ce monde n'a plus d'âme.
Sauvez-moi ici, je crève.
J'ai plus de cran.
Je veux déployer mes ailes.
M'envoler.
Je suis tellement sale, ça m'obsède.
Je cherche la paix.
On fait semblant, nos cœurs s'éteignent.
On est tous des mères.
Avant que la lumière s'éteigne.
J'ai tout à donner.
Vendez-moi un peu de rêve.
J'ai plus de cran. Je cherche la paix.
cherche la paix.
Tout miser pour toucher nos rêves.
Je cherche la paix.
Et qu'est-ce que ça peut faire si on veut quitter l'enfer?
Tout miser pour toucher nos rêves. Vendez-moi un peu de rêve.
J'ai plus de temps.
Sauvez-moi ici, je crève.
J'ai plus grand.
Je veux déployer mes ailes.
M'envoler.
Je suis tellement seul, ça m'obsède.
Je cherche la paix.
On fait semblant, nos cœurs s'aiment.
On est tous aimés.
Avant que la lumière s'éteigne.
J'ai tout à donner.
Vendez-moi un peu de rêve.
J'ai plus grand. Je cherche la paix.
Je cherche la paix. Le bonheur. Quitter l'enfer. Ici, si j'ai peur. Je cherche la paix. Je cherche la paix, le bonheur, quitter l'enfer. Ici j'ai peur. Je cherche la paix, le bonheur. Non.
On vient d'écouter du coup le message et le morceau de la part des parents d'Aurélie pour Aurélie. Et on va poursuivre avec un autre message qu'on a reçu pour Aurélie de la part de Claudette, Bernard et Romain. Et du coup, juste après, ce sera le morceau Melrose Place de Que Black, que si mes infos sont bonnes, t'avais demandé, Aurélie. Et du coup, bah, on espère que tu vas pouvoir kiffer, passer un moment de répit un petit peu en écoutant ça et en écoutant le message que je diffuse tout de suite, du coup, le message de Claudette, Bernard et Romain pour toi, Aurélie.
Bonjour, Aurélie, c'est Romain, je te fais de gros bisous et de gros câlins, je t'embrasse. Et bien, on passe de bonnes vacances. Et bien, on se revoit mercredi.
Bonjour Aurélie, c'est Claudette. Bon, j'espère que tu vas bien. On pense à toi très très fort. Hein. J'espère que tu vas bien. On t'aime. Et puis, on se voit mercredi, Aurélie, d'accord hein. Et je te fais de gros bisous. Je te passe Bernard.
Coucou Aurélie, c'est Bernard, je te souhaite bon courage, on t'aime, gros bisous.
Je te fais de gros câlins et de gros bisous, et on t'aime.
Allez Aurélie, bisous, pense à toi, puis on t'aime, et on se voit mercredi, d'accord? Allez, bisous Aurélie.
Pour ceux qui flânent fort, ah c'est le premier break, je peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, sorry, je suis pas dans ça. Ah c'est le premier babe, j'arrive dans pas long time. Me colle pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place.
Hey, babe, viens voir la vie en vrai. Je connais pas ton ex mais je sais qui va m'en vouloir. Hey, babe, ici on connaît pas commun. On a des amis en commun, ils m'ont dit que t'étais dur, donc j'étais moi bon courage. T'inquiète, je vais tout payer, hein. Oui je vais tout payer. Pour éviter que les pénaves obligées de tout payer. Ah c'est le premier bec, je peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, sorry je suis pas dans ça. Ah c'est le premier bec, j'arrive dans pas long time. Me colle pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place.
Ah non ça s'arrête pas. 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 Ah non ça s'arrête pas.
On fait le tour de la ville en hélico de Janeiro Rio. C'est pour toi mon bébé, amore mio. Ils sont là boca boca comme un pélican. Mes flingueurs et toujours vêtus de Dio. Viens voir la vie en vrai. On parle de ces bandeurs au passé.
Laissez passer.
Ma paix gigantesque. Le négro s'arrête pas de passer.
Chui.
Ma chérie fait consommer baby sans regarder l'addition.
Chui.
You can see me. Tu sais pas qui je suis.
Promis babe, je peux pas l'amener au spa. C'est ça qui t'intéresse, sorry, j'suis pas dans ça. Ah, c'est le premier babe, j'arrive dans pas long time. Me colle pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place.
C'est faux!
Ah non, ça s'arrête pas. 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 Ah non, ça s'arrête pas.
C'est pas Melrose Place.
C'était le morceau Melrose Place de Kublak qu'on vient d'écouter. Et du coup, on va poursuivre cette émission avec un message qu'on a reçu de la part de Orman pour Kalei. Je fais une petite parenthèse, mais on est super content d'avoir eu tes nouvelles, Orman. Ça fait vraiment plaisir de te lire et tout ça. Et on a hâte de te retrouver. Donc voilà, mais du coup, je partage le message que tu laisses à Kali. Et tu laisses avec ce message le morceau Amimé Piacé de Manu Chao et Alpha qu'on écoutera juste après. Et je vous lis le texte. Mi amore, nul doute que même loin de toi, tu restes profondément ancré en moi. Comment ne pas évoquer cette magie qui s'est opérée entre nous? J'ai toujours su que tu possédais quelque chose de spécial, et ce sans même savoir à quoi. Tu pouvais rassembler. J'ai appris à te découvrir au travers des mots auxquels je me suis accroché tout au long de ces années, où la solitude et le désespoir remplissaient mes journées derrière les barreaux. Tu as été ce cadeau tombé du ciel, un cadeau auquel je ne m'attendais pas. J'aime croire que certains anges là-haut ont manipulé notre rencontre. Des anges qui nous ont profondément aimés et qui ont toujours souhaité que nos vies continuent malgré tout. Il y a longtemps que mes sentiments pour toi sont une réalité. Mais j'ai longtemps hésité à te les déclarer car, après tout, quand on sort d'autant d'années de prison, je me demandais qu'est-ce que j'avais à t'offrir, moi qui ai trop perdu de temps en détention et qui dois repartir de zéro. Je me rappellerai à vie de ce fameux jour où nos regards se sont croisés pour la première fois. Ce regard qui ne trompe pas, qui ne triche pas et dans lequel j'ai pu y lire toute la tendresse que tu as eue pour moi. Ce jour-là, j'ai su que tu serais la femme de ma vie, celle à qui je pouvais confier mon cœur sans crainte. Nous avons avancé pas à pas et nous avons mis le temps pour pouvoir avoir le droit de nous voir, de nous dire les choses. Mais lorsque nous nous sommes embrassés pour la première fois, c'était la preuve que nous n'avons pas rêvé. Sentir la vie quand je te prends dans mes bras, ça ne possède aucun prix et cela vaut tout l'or du monde. Malgré l'adversité, l'amour a triomphé sur l'horreur dans toute sa splendeur. Alors je ne veux plus que tu t'éloignes de moi, parce que être loin de toi peut me faire vriller à tout moment. Parce que être séparé de toi, c'est prendre le risque inconsidéré de te perdre à jamais. Je t'aime d'un amour que peu de gens peuvent comprendre. Je t'aime de façon inconditionnelle, et il me tarde de vivre sous le même toit, car sans toi, plus rien ne tient debout. Ta petite gâchette qui n'a qu'une hâte, retrouver tes bras. Bisous tout doux, bisous tout fou. Ta petite gâchette qui t'embrasse follement. Orman. Du coup, c'était le message de Orman pour Kali. Et je partage le morceau que tu accompagnes de ton message, Orman. C'est le morceau Amimé Piacé de Manu Chao et Alpha. Et on se retrouve juste après.
Manu, come fa amico mio? Mi piace il sole che mi scalda e la pelle me la cambia. La tua schiena che si inarca e mi sembra il sud Italia. Amo in Asia la francese ed i baci all'eschimese. Inventarmi le parole quando canto un pezzo inglese. A me mi piace dire, a me mi piace anche se non si dice. Però rende l'idea in maniera molto più efficace. Amo GE col mare mosso, il caffè col vino rosso. Quando il primo settembre sembra il 32 d'agosto. E sei luce la mattina,
me gustas tu.
La mia serotonina,
me gustas tu.
Mi fa alzare l'autostima,
me gustas tu. Me gustas tú.
Più del mar Mediterraneo.
Me gustas tú.
Una domenica allo stadio.
Me gustas tú.
Conteo tutto il necessario.
Me gustas tú.
Sí, me gustas tutto, me gustas tú. Perché tú sei come Roma. Qualunque strada porta da te. Si mi porta
11 della notte in Managua, Nicaragua.
Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno. Ma fossi qui con me non dormiremmo così tanto. Sì così tanto, sì così tanto. A testa bassa mentre stavo camminando. Mi sono accorto ieri che il cielo parte dai piedi. Che le cose cambiano forma in base a come le vedi. A me mi piace che mettiamo l'energia. Anche se vado via mi prendo ovunque un po' come Radio Maria. Sei luce la mattina,
me gustas tu.
La mia serotonina,
me gustas tu.
Mi fa alzare l'autostima,
me gustas tu. Me gustas tú, no me gusta.
secondario.
Me gustas tú.
Sí, me gustas tutto, me gustas tú.
Manu, è vita intensa.
La mia serotonina,
me gustas tú.
Mi fa alzare l'autostima,
me gustas tú. Me gustas tú, no me gustas tú.
Più di Genova e Bilbao,
me gustas tú.
Di un concerto che è sold out,
me gustas tú.
Più di Alfa e Manu Chao,
me gustas tú.
Sì, me gustas tú.
Vous écoutez l'émission 94 degrés à l'ombre et on va écouter maintenant le message qu'on a reçu de la part de Kali pour Orman. C'est un message vocal et juste après il y a du coup le morceau de Kali. C'est le morceau Impossible Love de Eminem et je vous transmets d'abord le message de Kali.
Coucou Mirman, c'est Kali, c'est moi. Je te laisse un petit message en sachant que tout de même tu vas bientôt sortir. Du coup, j'espère que tu t'es approché jusqu'au bout. Tu as dû recevoir une petite lettre que je t'avais envoyée. Et j'attends peut-être aussi un petit courrier de ta part dans la boîte aux lettres. Mais je sais que tu es solide, hein, tu résistes et voilà, tes derniers courriers l'ont prouvé. Et on arrive vers la fin et c'est bien, tu vas bientôt sortir, tu vas bientôt rentrer et du coup je suis positive un peu. Hâte de te serrer, de te faire plein de bisous pour de vrai. Prends bien soin de toi et si ça se passe correctement, t'inquiète pas. Et très très vite, je t'aime fort fort fort, je te fais des bisous tout doux, des bisous tout fous. Bye, bye Millerman.
We broke each other just because this was never real. Just impossible.
Remain in the war zone, hearts on lock. You were peace in a world that forgot to stop. I was raging a bottle, you cracked that seal. But love ain't love when the pain feels real. You had dreams, I had demons. You wore white, I was scheming. We're two lost kids on a runaway track, trying to fix the world with a needle and a match. I gave you scars, you gave me silence. Fell in love in the midst of the violence. I held your face while you cried at night. Promised I'd change, still chose to fight.
What you destroy, I was your drug, you were my void. We're broken glass, stained with blood. You can't hold on to impossible.
I said I'd never be like him, my old man lied. But I saw his ghost every time I tried. You cried in the dark, I drank to numb. Set forever with a hand on a loaded gun. You begged me to stop, I broke that trust. Spoke in fire, but my words turned to dust. Now I walk through your tears in my sleep. All these promises buried too deep. Every fight me and play like a song. Each lyric a cut, we sang it too long. Now I'm screaming at the silence you left. You were love, but I gave you death.
You destroy, I was your drug, you were my void. We're broken glass, stained with blood. You can't hold on to impossible.
I never meant to break you, but I was broken first. You were my light, but I only knew how to curse the dark. Now I'm left with this echo of you. Empty bed, but the pain stays true. I scream your name in the rearview smoke. Bloodshot gone, and I'm the joke. I held love like a weapon, scared to feel. Thought pain was proof that it had to be real. You walked and I watched, too numb to chase. Now I just haunt your empty space.
Destroy, I was your drug, you were my void. We're broken glass, stained with blood.
C'était du coup le message et la dédicace de Kalei pour Orman. Et voilà, dans ton message, Orman, tu nous donnes une date pour nous revoir dans les studios et tout. Et on a trop hâte de te revoir, quoi. C'est vraiment une trop bonne nouvelle. Et évidemment, on vous souhaite à tous et toutes de sortir le plus vite, quoi. Et sachez qu'à votre sortie, je pense que vous pourrez forcément trouver des collectifs, des orgas, des personnes qui peuvent vous retrouver, vous écouter, vous accueillir. Et voilà, vous n'êtes pas seul, même si la tôle, évidemment, ça isole et tout ça. En tout cas, on poursuit cette émission, du coup, avec un message qu'on a reçu de la part de Kat et Lily pour Norman H. en fauteuil, leur papa. Et du coup, ce sera suivi du morceau d'Onde des Basses de Seuil. Donc, je vous lis le message de Kat et Lily pour Norman H. Coucou papa, on est bien rentré de vacances. On espère que les prochaines seront avec toi. On t'aime fort, Kat et Lily. Et du coup, je vous partage le morceau d'Onde des Basses de Seuil. Bonne écoute.
Oh, oh, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Oh, oh, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Je me souviens t'avoir connu au Sainte-Marie de la mer. Je me souviens t'avoir perdu. C'était demain, c'était hier. Il y avait dans ton regard les voyageurs, les océans. C'est la liberté des gitans. Je me souviens d'avoir connu au Sainte-Marie de la mer. Je me souviens d'avoir perdu. C'était demain, c'était hier. Il y avait dans ton regard les voyageurs, les océans. C'est la liberté des gitans. Oh, oh, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Oh, oh, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Dime tú dónde vas, oh, oh, ¿dónde vas? Dime tú dónde vas, dime tú dónde vas. J'aime t'entendre de dire que tu ne peux pas vivre sans moi. J'aime tes éclats de rire. Et quand tu rentres seul le soir, que je te vois partir, je ne sais vraiment pas pourquoi, pourquoi je t'aime comme ça. Je t'entends me dire que tu ne peux pas vivre sans moi. J'aime tes éclats de rire. Mais quand tu rentres seul le soir, que je te vois partir, je ne sais vraiment pas pourquoi, pourquoi je t'aime comme ça. Oh, oh, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Oh, oh, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Oh, oh, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas? Dime tú, ¿dónde vas?
Et C'était le message et la dédicace de Kat et Lily pour leur papa Norman H. On espère que tu as pu recevoir ça, Norman. Et du coup, on poursuit cette émission avec un message vocal qu'on a aussi de la part de Diane. Plus précisément, même, il y a deux messages vocaux du coup de Diane. Il y en a un pour Mourad qu'on va passer en premier. Et ensuite, il y a un deuxième message vocal de Diane pour Kalei. Donc je vous partage ça. Du coup, le message de Diane pour Mourad.
Ah Mourad, je me rappelle le jour où tu m'as dit « ça te dérange pas si je te dis je t'aime ?» J'ai bataillé toutes ces années pour toi avec Walou. C'est moi qui t'ai attendu, pas les autres. Après, on peut bien se moquer, jaser, je m'en fous. La critique est facile, la méchanceté gratuite. J'ai toujours été sincère et honnête avec toi. Nos cœurs se sont choisis. L'amour, ça vous tombe dessus, parce que c'était toi, parce que c'était moi. Comme une évidence. Dans mes rêves, c'est l'amour qui fait sa loi. Que de kilomètres parcourus avant d'arriver jusqu'à toi, malgré mon asthme d'effort. J'aurais pu partir loin, mais je suis restée par amour pour toi. Je n'ai cessé de t'aimer. Je t'aimais hier, je t'aimerai encore demain, et je t'aime encore plus fort aujourd'hui. Je relance un SOS d'amour pour toi comme une bouteille à la mer. Tu es mon meilleur. Allez, courage. Je t'aime.
Voilà, du coup, c'était le premier message de Diane pour Mourad. Et je vous partage le deuxième message de Diane pour Kali. Du coup, et juste après, il y aura le morceau que Diane a choisi, qui est le morceau Minha Galera de Manu Chao.
Sache que je suis désolée qu'on se soit un peu fâché et je le regrette vraiment. Mais les chiens font pas des chats. Tu es une belle personne et une battante. Toi aussi, tu dois gérer tes soucis et tu mènes bien ta barque. Tu mérites le bonheur. Les sœurs, ça se chamaille, mais ça se pardonne aussi. Depuis que j'ai appris la maladie de basse d'eau et mes soucis, j'en vois tout valser. Et je suis sincèrement désolée si je t'ai blessée. Je viens de loin aussi. Toi, tu as traversé des épreuves. Avec Norman, tu m'as toujours soutenue. Tu sais, j'ai du mal à donner la confiance, mais je fais des efforts. J'aurais dû m'expliquer avant et être moins dure avec toi. J'espère que tu comprendras sans me juger. Je sais que tu le feras la part des choses. Je t'estime beaucoup. Ton amitié compte pour moi. Seconde chance. Ta poupée qui dit non, comme tu me surnommes si bien. Courage. Allez, je suis fière de toi. Du chemin parcouru. Force à toi. Bisous.
Minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Oh, minha cachoeira, minha menina, minha flamenga, minha capoeira. Oh, minha menina, minha querida, minha valera. Oh, minha maloca, minha larica, minha cachaça, minha cadeira. Minha vagabunda, oh minha vida, minha mambembe, minha ladeira. Oh minha menina, minha querida, minha valeria. Oh minha torcida, minha flamenga, minha cadeira. Vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capoeira. Oh, miña menina, miña miña querida, miña Valeria, miña torcida, miña flamenga, miña cadena. Oh, miña macoña, miña torcida, miña querida, miña galera.
Et vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez l'émission 94 degrés à l'ombre. Et on poursuit cette émission avec un morceau que Fred souhaitait passer à Pascaline. C'est le morceau Brass in Pocket de The Pretenders. Bonne écoute.
Got brass in pocket, got paddle. Gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion. Restrained emotion. I've been diving. Detail leaning. No reason. Just seems so pleasing. A beat, I got new skank. Sorry, got something. Winking.
Pour cette dédicace du coup de la part de Fred pour Pascaline. Et juste avant de poursuivre le partage de vos messages, de vos dédicaces, je vais vous rappeler rapidement les contacts par lesquels vous pouvez nous contacter justement. Du coup, vous pouvez nous écrire au 6 cours des Alliés, Canal B 94 35000 Rennes. 6 cours des Alliés, Canal B, 94, 35000 Rennes. Vous pouvez aussi nous appeler tous les dimanches de 10h15 à 11h45 au 02 99 52 77 66. On pourra notamment vous enregistrer pour passer des messages vocaux. Et vous pouvez aussi nous contacter par mail à l'adresse 94degrèsalombre@protonmail.com, 94 en chiffres, degrés à l'ombre, tout attaché, sans accent, ou sur la page Facebook de l'émission. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez laisser des messages, bien sûr, mais aussi si vous avez des choses à partager, si vous voulez témoigner de ce qui se passe pour vous en prison ou en tant que proche de prisonniers, prisonnières. Ou si vous avez des questions sur l'émission, si vous voulez participer à l'émission, voilà, on pourra répondre à vos demandes, quoi. N'hésitez pas aussi à partager les contacts à l'intérieur si vous savez que ça peut intéresser des personnes ou quoi. Voilà, on peut aussi vous partager le contact de L'Envolée, qui est un journal anticarcéral qui partage la parole des prisonniers, prisonnières, de leurs proches. C'est un journal qui est gratuit pour les personnes en tôle. Vous pouvez le demander en envoyant une lettre. Donc à L'Envolée, COFPP, au 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Vous pouvez aussi retrouver le contenu de L'Envolée sur leur site internet pour les personnes qui ont accès à internet. C'est un site sur lequel il y a beaucoup de contenu intéressant, des témoignages, des émissions sous format podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez. Et si vous voulez contacter L'Envolée, pareil pour témoigner de ce qui se passe en prison ou autre, vous pouvez le faire à l'adresse contact@l'envolée.net ou par lettre à l'adresse que je vous ai donnée au 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Vous pouvez aussi contacter l'OIP, notamment pour recevoir le guide du prisonnier, pareil, qui est gratuit pour les personnes en tôle. Et donc vous pouvez en faire la demande à l'OIP-SF au 7 bis rue Riquet, R-I-Q-U-E-T, 75019 Paris. Et enfin, je peux vous partager le contact de Brin de Soleil, qui est une association à Rennes qui gère notamment les maisons Titom et Luciole, qui sont des lieux de repos situés juste à côté du CPH et du CPF, du centre pénitentiaire pour hommes et du centre pénitentiaire pour femmes à Vezin et à la gare. Voilà, vous pouvez prendre un café, réchauffer des plats, mettre vos affaires pendant avant un parloir, etc. Brin de Soleil gère aussi la maison L'Arc-en-Ciel, qui est un lieu d'hébergement pour des personnes qui viendraient faire des parloirs qui n'auraient pas de logement en Ille-et-Vilaine. Donc c'est un lieu d'hébergement à 12 euros par chambre et par nuit, avec le petit déjeuner, de quoi préparer des repas, etc. Donc si... Si vous êtes en difficulté pour avoir un endroit où loger pour venir faire des parloirs, ça peut être utile. Et du coup, vous pouvez les contacter au 07 68 16 09 53 ou à l'adresse hébergement@brindesoleil-rennes.fr. Et c'est un lieu, la Maison L'Arc-en-Ciel, qui se situe au 53 rue Bigot de Préameneux, à Rennes. Voilà, du coup, pour tous les contacts. Et on va pouvoir poursuivre cette émission avec un message vocal qu'on a reçu de la part de Malika pour Norman. Du coup, je vous partage son message et juste après, il y aura le morceau Wasubanala de Le silence des mosquées qui a été choisi du coup par Malika. Et pardon, le message arrive tout de suite. Du coup, le message de Malika pour Norman.
Bonjour à toutes les détenues, bonjour à tous les détenus. Je vous envoie plein de gros bisous. Et courage à vous et on va commencer un fuck le heps. Norman. Nour, salam alaikum. Mon fils, mon cœur, mon amour, je t'envoie plein de gros bisous. Je me suis réveillée ce matin avec une chic, j'ai le côté droit tout enflé. C'est dimanche, pas de chance, mais les dentistes sont fermés, donc je vais peut-être appeler SOS médecin. Et puis demain, Inch'Allah, j'appelle un dentiste. Pour le mien, parce que c'est un vieux connard. Donc, je n'ai pas appelé le dernier que j'ai eu. Bref. Sinon, j'ai vu Rafi, il te passe le bonjour. Soren, j'ai eu des nouvelles par Diwan. Soren, il bosse. Il a apparemment que 2 jours de congé dans sa semaine. Il y a le chat qui s'est gamélé de la table. Bon. Et puis voilà. Et donc, je vais te faire plein de gros bisous. Je t'aime fort, mon cœur. Je t'aime fort, mon fils, ma bataille, mon fils, mon amour. Je t'aime, Norman. Je t'aime, Norman. Je t'aime, mon fils. Je t'aime. Gros bisous. Gros bisous. À dimanche prochain, Inch'Allah. Gros bisous, je t'aime. Orman et Norman en fauteuil roulant, je voulais vous passer le bonjour, vous envoyer plein de gros bisous également. Ouais, je peux pas trop parler là avec ma chic, là. Je mets de l'argile dessus, on verra bien, et un peu de bouche de gros sel. Voilà. Bon, ben gros bisous à tous, hein, à tous, tout le monde, et à l'équipe bien sûr de 94 degrés également. Je vous envoie plein de gros bisous et fuck le EPS.
Permettez que je vous rappelle ces paroles de l'Éternel s'adressant à ses fidèles. Écoutez, elles sont si belles.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Quand c'est l'heure de la prière, tu prends congé maladie, tu ne sais pas ce que tu perds, ne joue pas avec ta vie, remettez les pieds sur terre, sinon direction l'enfer, car si tu veux le paradis, dis-toi qu'il n'est pas gratuit. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah.
Frères et sœurs musulmans, implorez en vous prosternant le tout clément, le tout puissant,
Allah, Allah le plus grand.
Nous descendons tous d'Adam, nous sommes tous musulmans, nous avons fait le serment
d'adorer le tout puissant. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah.
C'est lui le puissant,
Allah
le tout clément,
Allah
le clairvoyant,
Allah
le plus patient,
Allah
l'omnipotent,
Allah
le plus savant,
Allah
le tout sachant,
Allah
le repentant.
Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Il l'a envoyé comme messager pour tout l'univers, Muhammadur Rasulullah, c'est lui le prophète, l'imam des prophètes, le sceau des prophètes, Muhammadur Rasulullah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah. Wa subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, la
messager pour tout l'univers. Muhammad Rasulullah, c'est lui le prophète, l'imam des prophètes, le sceau des prophètes. Muhammad Rasulullah, wa subhanallah, wa alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wa subhanallah, wa alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wa subhanallah, wa alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wa subhanallah, wa alhamdulillah.
Voilà, du coup, c'était le morceau Wasubanala de Le silence des mosquées. Et on va écouter tout de suite un morceau qui a été dédicacé par Bruno pour sa femme. C'est le morceau When a Man Loves a Woman de Percy Sledge. Bonne écoute. C'était un morceau du coup de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, proposé par Bruno. Et on va terminer les messages, les dédicaces pour l'émission d'aujourd'hui avec une autre dédicace qu'on a reçue de la part de Bruno pour sa belle-sœur. Et du coup, c'est le morceau See You Again de Wiz Khalifa. Et on se retrouve juste après.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again.
planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know we started.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
I'll tell you.
When I see you again.
You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed, established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Voilà, du coup, c'était un morceau de Wiz Khalifa. Et on en arrive à la fin des messages et des dédicaces pour l'émission d'aujourd'hui. Il est 13h quasiment. Du coup, il nous reste un peu de temps. On souhaitait vous partager un entretien qui a été réalisé par le collectif Féministe Révolutionnaire. Donc un collectif féministe et anticapitaliste que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux et il y a également un site internet féministerévolutionnaire.org sur lequel vous pouvez retrouver différents contenus très intéressants, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous souhaitez. Et du coup, ce collectif Féministe Révolutionnaire a réalisé un entretien avec Gwenola Ricordo et Prune Missoff. Gwenola Ricordo, qui est une sociologue et militante féministe et anticarcérale, qui a publié différents ouvrages, notamment Pour elles toutes, qui parle de féminisme anticarcéral, ou Brique par brique, mur par mur, qui parle de l'histoire de l'abolitionnisme pénal, et d'autres. D'autres livres qui parlent de prison et d'abolition des prisons et de la justice pénale. Et Prune Missoff aussi, qui est responsable du pôle plaidoyer de l'Observatoire international des prisons. Donc voilà, c'est un entretien qui dure une heure environ, que vous pouvez retrouver sur YouTube si vous avez envie de le réécouter, si vous voulez le partager avec d'autres. Donc n'hésitez pas. Et voilà, je vous partage ça et j'espère que ça va vous intéresser. Bonne écoute.
Dans un premier temps, on va s'intéresser à la prison comme un rouage central de l'État capitaliste qui renforce les hiérarchies et perpétue les violences patriarcales. Interroger le rôle de la prison, c'est questionner les intérêts de classe qu'elle défend. La prison n'est pas un instrument neutre au service de la justice, mais un outil de l'État capitaliste qui sert à maintenir l'ordre social en réprimant les classes populaires, en criminalisant les marges et en perpétuant les rapports de domination, qu'ils soient de classe, de genre et de race. En effet, les chiffres sont sans appel. Les personnes incarcérées en France comme ailleurs sont majoritairement des personnes exposées à les vulnérabilités croisées. En 2021, Emmaüs France et le Secours catholique ont réalisé une étude sur les pauvretés vécues par les personnes détenues. Selon cette étude, 45% des personnes interrogées estimaient être en situation de pauvreté avant leur incarcération. Une sur trois n'avait aucun logement personnel ou stable au moment de l'incarcération, et seuls 50% disposaient de revenus d'activité professionnelle avant l'incarcération. Pour beaucoup, la prison ne marque pas une rupture, mais prolonge un parcours façonné par les violences systémiques du capitalisme. Elle fonctionne comme une réponse punitive à la misère, criminalisant la pauvreté au lieu de s'attaquer à ses causes profondes. Plus qu'un espace de justice, la prison est un outil de gestion autoritaire des classes populaires et de réduction de l'exclusion sociale au service de l'ordre bourgeois. Nous avons interrogé Prune Missoff à ce sujet.
Alors, à la fois la question des analyses des politiques pénales, et notamment actuelles, sur laquelle on pourra revenir, mais je crois que le premier point, c'est de revenir effectivement à juste regarder quelle est la population carcérale. Ne serait-ce que mettre les pieds en prison, on voit très vite, alors notamment que c'est 97% d'hommes, que ce sont beaucoup des jeunes hommes, beaucoup de jeunes hommes issus de quartiers défavorisés, beaucoup de jeunes hommes racisés et beaucoup de précarité qui se ressent très vite. Beaucoup de personnes qui arrivent en détention avec, voire même à cause de, un certain nombre de problématiques liées à cette précarité. Et là-dessus, il y a des chiffres qui sont assez frappants, notamment l'étude qui dit que les personnes touchant moins de 300 euros par mois ont, à infraction égale évidemment, trois fois plus de risques d'être condamnées à de la prison ferme que les personnes qui touchent au moins 1500 euros par mois. Donc ça pose très nettement le cadre de la répression pénale aujourd'hui. Au-delà de tous les faits divers de personnalités publiques qui sont très loin de la précarité et qui souvent se retrouvent avec des peines beaucoup plus faibles ou en tout cas beaucoup plus aménagées. Et en fait, cette précarité, on va la retrouver à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau financier, au niveau de la maîtrise de la langue, par exemple, au niveau de diplôme, au niveau du soutien social, du soutien familial. La santé, et en fait ça va se répercuter sur l'ensemble des champs. Donc ça va être un facteur qui favorise l'incarcération, et on le voit notamment sur la procédure de comparution immédiate qui est de plus en plus privilégiée et qui conduit à 8 fois plus de risques d'être condamné à une peine de prison ferme, et dont on sait qu'elle concerne principalement des personnes de nationalité étrangère ou par exemple des personnes sans domicile fixe. Et en plus, la prison, elle va venir vraiment renforcer, aggraver cette précarité. On sait que la prison, c'est un facteur d'appauvrissement, que on pourra peut-être y revenir, mais qu'il y a extrêmement peu d'accompagnement, voire pas du tout. Et du coup, les personnes vont à la fois vivre la détention dans une grande précarité, et en plus, au moment où ils vont sortir de prison, cette précarité, elle va être accentuée, donc encore plus de difficultés à avoir accès notamment au logement, à l'emploi, à un environnement familial, social stable, et donc se retrouver dans une société qui fait assez peu de cas de ces personnes-là, et donc dans une dynamique extrêmement paradoxale par rapport à toute cette idée selon laquelle la prison devrait être un outil de réinsertion.
Mais qu'en est-il des femmes ? Comme l'explique Prune, elles représentent une minorité de la population carcérale, en France comme ailleurs dans le monde. Et parce qu'elles sont peu nombreuses, les recherches à leur sujet restent limitées. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la majorité d'entre elles viennent de milieux précaires, souvent privés d'accès à l'éducation, à la santé ou à un emploi stable. Les violences fondées sur le genre jouent un rôle central dans leur criminalisation. Elles influencent autant leur parcours de vie que la manière dont elles sont traitées par le système judiciaire. Très souvent, c'est la pauvreté qui les mène en prison. Partout dans le monde, des femmes sont incarcérées pour des infractions mineures, non violentes, liées à la survie. Vol de nourriture, non-paiement d'amende ou petit trafic de stupéfiants. Beaucoup sont aussi enfermées pour des faits de complicité, souvent liés aux actes d'hommes de leur entourage. Dans bien des cas, leurs délits sont une réponse directe à leur marginalisation économique. Une grande partie des femmes détenues sont aussi des survivantes de violences fondées sur le genre. Ces violences peuvent conduire à des actes criminalisés, comme se défendre contre un partenaire violent. Elles se retrouvent ainsi à la fois victimes et criminalisées. Cette question est d'autant plus importante que le nombre de femmes emprisonnées ne cesse d'augmenter. Même si elles ne représentent qu'environ 4% de la population carcérale mondiale, leur nombre explose. Plus 57% depuis les années 2000, selon l'Organisation Pénal Réforme Internationale. Un rythme de croissance bien plus rapide que celui des hommes. Alors face à ces constats, une question s'impose. Est-ce que la prison sert-elle vraiment la justice sociale? Gwenola nous a apporté son éclairage à ce sujet.
Alors on peut répondre à cette question de différentes manières parce que on peut déjà commencer par une autre façon de poser la question qui est à quoi sert la prison? Et est-ce que la prison sert à nous protéger, à protéger les femmes? Est-ce que cela sert la justice sociale plus généralement? Et à cette question, moi et d'autres répondons non, hein, qu'elle a bien d'autres usages que l'usage de nous protéger et que si on cherche plus de protection, hein, si c'est l'angle sous lequel on veut réfléchir à l'institution carcérale, il y a sans doute bien d'autres moyens que d'enfermer certains hommes, hein, et d'enfermer certains auteurs de violences faites aux femmes, puisqu'il faut rappeler que la prison a toujours pour vocation à n'enfermer qu'une partie en fait, des auteurs de violences faites aux femmes, et des auteurs qui ont toujours des caractéristiques bien précises, hein, d'être des hommes issus des populations, issus de l'immigration, issus des classes populaires. Et donc, le fait que la prison aujourd'hui se présente comme possiblement du côté des luttes féministes, du côté de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est juste une façon dont l'institution se renouvelle, hein, se met finalement au bout du jour. Ça dit aussi la façon dont le féminisme peut accepter certaines formes d'instrumentalisation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis, l'autre façon de répondre à cette question sur l'institution carcérale et comme forme de continuation des violences patriarcales, des violences faites aux femmes, faut dire aussi que la prison est elle-même une institution extrêmement violente, une institution au sein de laquelle se produisent des violences à caractère sexuel. Et puis là, cette question, elle ouvre aussi évidemment la question de la protection en fait des femmes qui sont incarcérées, parmi lesquelles un grand nombre sont elles-mêmes des victimes de violences sexuelles, de violences conjugales, et que du coup la prison qui d'un côté prétend être du côté des victimes, du côté de la lutte contre les violences faites aux femmes, finalement, hein, parmi les populations qu'elle réprime, les populations qu'elle enferme, compte une surreprésentation de ces mêmes victimes. C'est quelque chose qui est extrêmement marquant du côté des prisonnières. C'est la grande caractéristique des femmes qui sont incarcérées, c'est d'avoir été victimes de violences conjugales, de violences à caractère sexuel. Alors, avec des statistiques selon les pays qui sont difficiles à établir, mais qui sont parfois extrêmement effrayants, puisque certaines études relèvent jusqu'à 90% de femmes incarcérées qui ont expérimenté ce type de violence. Mais on sait aussi que c'est quelque chose qui se retrouve chez les hommes incarcérés, hein, qu'il y a une surreprésentation parmi les hommes incarcérés des hommes qui ont été victimes de violences à caractère sexuel. Et donc, évidemment, hein, la prison dans ses parcours de victimation, dans ses parcours de victime, et pas une cause directe. Hein, c'est pas parce qu'on a été victime de violences sexuelles ou de violences domestiques qu'on va finir en prison. Hein, c'est pas de cette manière-là qu'il faut le voir. Mais c'est plutôt comment, en fait, ces formes de victimation contribuent à des parcours d'exclusion, des parcours de vulnérabilité, et que la prison est là en fin de course hein, pour ces personnes.
On vient de voir que la prison est un outil de criminalisation des plus précaires et des marginalisés. On s'interroge maintenant sur le lien entre système carcéral et patriarcat. Comment la prison participe-t-elle à la reproduction des rapports de pouvoir et des violences de genre dans nos sociétés? Si je vous dis, fermez les yeux un instant et imaginez une prison. Qu'est-ce qui vous vient comme image? Un gros bloc de béton, des barbelés, des grilles, des cours de promenade sans arbres, des lumières blafardes, une architecture brutale, violente. Et si je vous dis maintenant, imaginez l'état des relations entre personnes détenues, entre surveillants et personnes détenues, entre surveillants entre eux. Vous imaginez quoi? Des relations surtout violentes, de contrôle, de force, imprimées par l'exercice d'un pouvoir asymétrique. Des relations virilistes, aussi violentes et brutales. Bien sûr, il n'y a pas que ça en prison. Ce sont des écosystèmes complexes, mais qui sont régis par certaines forces. On peut invoquer ici le livre de Monique Wittig, « La pensée straight », dans lequel elle dénonce l'hétéropatriarcat comme système sociopolitique où les personnes hétérosexuelles, marquées par le genre masculin, dominent les autres groupes, femmes, minorités de genre et sexuelles. On pourrait dire que les prisons, sans doute, sont l'expression la plus aboutie de cet hétéropatriarcat. L'homosexualité est un tabou ultime, être identifié comme un homosexuel en prison est très dangereux. L'état de violence et la dureté qui règne dans les prisons pour hommes poussent à un entretien d'un virilisme exacerbé, à l'expression d'une masculinité forte, puissante, écrasante. C'est un lieu qui radicalise les violences et qui radicalise le virilisme. Le virilisme devient alors une forme de nécessité totale. La prison condense de multiples formes de violences déjà en œuvre dehors. Des violences physiques, verbales, psychologiques, administratives, mais aussi institutionnelles et symboliques. On peut dès lors s'interroger sur la pertinence d'envoyer un auteur de VSS en prison. Y trouvera-t-il la rédemption? Comprendra-t-il de ces actes violents sont notamment le symptôme d'une société violente et hétéropatriarcale? Souhaitera-t-il s'en éloigner, changer? On en doute un peu. Natacha Tchetkuti-Ozorowicz, dans son livre « Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité », publié en 2021, reprend le concept de continuum de violence. En particulier, celle des violences de genre. Elle y démontre que le continuum s'exprime dans le fait que la domination et l'appropriation du corps des femmes par les hommes constituent un lien structurant. Les violences visibles ou invisibles résultent de la hiérarchisation des rapports sociaux de sexe et de genre d'une société hétéropatriarcale. La prison est cette institution de reproduction de ces violences de genre. Cette violence institutionnelle est bien décrite par Prune dans le quotidien des personnes détenues.
Et tu disais du coup que avec la prison, on donne une réponse individuelle à un problème structurel au lieu de traiter le fond de la problématique qui est la culture du viol, la société hétéropatriarcale qui conduit du coup à normaliser les VSS dans notre société et donc à faire qu'il y ait autant de personnes qui soient victimes de VSS. Et donc... Je vais revenir sur, t'en as parlé un peu, mais c'était finalement la question du milieu, mais t'en as parlé un peu, du fait que le système carcéral est un système violent qui reproduit la violence de systémique, qui reproduit les codes virilistes, etc. Et que donc on peut pas mettre des personnes dans un système qui reproduit la violence en espérant qu'ils sortent de ces logiques de violence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément de ça, des conditions carcérales finalement, et de la façon dont la prison reproduit ce système de violence? Moi je trouvais ça, enfin je t'ai entendu dans une interview parler du mitard et je trouvais que c'était intéressant ce que tu disais sur ça. Enfin, je trouve en vrai que le mitard est un sujet à part entière hyper intéressant de comment on met de la punition dans la punition et comment on met de l'hyper-violence dans un système qui est déjà hyper-violent.
Mais une question, mais...
Non, non, quand tu m'as posé la question, le premier mot justement que je venais d'écrire sur mon papier pour ne pas oublier d'en parler, c'était le QD, donc le mitard, le quartier disciplinaire. Je pense que après on peut revenir de manière plus générale, mais effectivement, c'est vraiment le lieu de la prison qui pousse à son paroxysme à peu près tous les dysfonctionnements du milieu carcéral. Et en premier lieu, la question de la violence, et avant tout en fait de la violence institutionnelle, de la violence d'un quotidien dans des conditions qui sont insalubres, vétustes, où il y a pas mal de personnes détenues qui nous disent, hein, nous on a vraiment la sensation d'être traités comme des animaux. En fait, les normes minimales, ne serait-ce qu'en surface d'un espace pour un chien dans un chenil, est plus important que ce qu'on connaît aujourd'hui en prison. Ce côté aussi extrêmement sombre et grillagé, en fait, d'une cellule, quoi. On se retrouve avec un accès à la lumière très réduit, avec des grillages partout. Les personnes détenues souvent sortent de détention avec des problèmes de vision, des problèmes aussi d'ouïe, en fait, des choses qu'on n'imagine pas nécessairement, et avec toutes les conséquences psychologiques que ça va impliquer, sachant qu'il y a déjà une grande partie des personnes incarcérées qui arrivent, là aussi, hein, c'est un peu comme les questions de précarité, qui arrivent avec des troubles psy en prison, parce que c'est une population davantage incarcérée. Mais la détention va aussi là venir comme à la fois donc un facteur, enfin un lieu de concentration entre guillemets de ces populations-là, et ensuite un facteur aggravant de ces troubles-là. Et le quartier disciplinaire là aussi va être vraiment un peu l'exemple ultime de cette violence psychologique. Où vous êtes mis dans une cellule, donc souvent encore plus vétuste. J'ai pas parlé des nuisibles non plus, mais quand même, enfin voilà, où on cohabite globalement avec des nuisibles, des rats, des cafards, etc. Et le QD va avoir en plus ce truc d'isolement quasi total, donc de non-communication avec les autres personnes détenues, où vous allez pas pouvoir, vous allez pouvoir emporter quelques effets personnels, mais extrêmement peu. Et donc au-delà de cette violence institutionnelle, où de la même manière la question du sens, on parlait du sens de la prison, la question du sens de la sanction du quartier disciplinaire n'est absolument pas posée, et j'ai pas parlé aussi évidemment de la question du suicide, mais c'est une conséquence qui montre très bien quand même la violence psychique institutionnelle, c'est que au quartier disciplinaire, il y a un risque de se suicider qui est 20 fois supérieur à la détention. Et en détention, il y a déjà 10 fois plus de risques de se suicider qu'à l'extérieur. Donc on arrive sur des chiffres qui sont très alarmants. Et c'est aussi un lieu où, là aussi, encore plus que dans le reste de la détention, on va y avoir un pouvoir d'appréciation encore plus important de l'administration pénitentiaire. On va être encore plus à l'abri des regards et on va y constater encore plus de problématiques de brimades et de violences de la part du personnel pénitentiaire sur des personnes détenues. Et après, pour du coup peut-être réélargir à la détention globale, je pense que la violence institutionnelle, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais se décline à tous les niveaux, c'est-à-dire à partir du moment où, c'est d'ailleurs, je pense, un des paradoxes principaux de la prison, c'est-à-dire qu'on va incarcérer des personnes qui sont considérées ne pas avoir respecté la loi ou qui sont présumées ne pas l'avoir respectée dans des lieux qui ne respectent pas la loi. Et en fait, rien que ça, c'est très paradoxal et extrêmement violent institutionnellement, c'est-à-dire que on revient dans une idée de prison comme un outil de vengeance. La justice, c'était censé justement un peu nous faire dépasser cette idée de vengeance individuelle, œil pour œil, dent pour dent. Et en réalité, on se retrouve dans une vision de la prison où, alors de manière, je ne sais pas à quel point conscientisée, mais où finalement, on a l'impression que si la prison ne fait pas souffrir dans la chair ou dans les esprits les personnes qu'on incarcère, c'est comme si elle ne remplissait pas ses objectifs. Donc on revient complètement dans une idée de de vengeance. Et la question de la réinsertion, elle a beau apparaître dans les textes, en fait, elle est extrêmement secondaire, voire ne cesse de s'effacer de plus en plus avec les discours actuels. Et donc, cette violation du droit, des droits, elle se fait à tous les niveaux. Question de l'éducation, la question de la santé, la question de l'insertion, la question du respect des droits familiaux, voilà. Et on pourrait décliner relativement à l'infini cette liste.
Cette violence institutionnelle vient se superposer aux violences subies par les personnes avant leur entrée en détention et les enferme dans ce continuum de violence. Natacha Tchetkuti-Ozorowicz analyse dans l'ouvrage que nous avons précédemment cité les processus collectifs intégrés aux trajectoires individuelles des femmes détenues pour comprendre comment les injonctions sont comprises et quel type de réponse elles peuvent y apporter selon leurs ressources. Elle met ainsi en lumière les violences subies par ces femmes avant la détention et la manière dont elles se retrouvent aux prises avec ces schémas intégrés qu'elles se voient souvent contraintes de reproduire dans l'institution carcérale. Elle identifie différents types de parcours de femmes. Son analyse met en lumière la spécificité du vécu des femmes incarcérées, trop souvent invisibilisées, et le poids des rapports de genre dans l'univers pénitentiaire. Les conditions de détention des femmes et des minorités de genre participent aussi à la reproduction des violences patriarcales. Les femmes incarcérées représentent une toute petite partie de la population carcérale. Elles se retrouvent donc souvent isolées, dans des quartiers spécifiques, au sein de prisons conçues par et pour des hommes. Cela limite leur accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités, ce qui renforce aussi leur marginalisation. En France, leur incarcération dans des établissements éloignés de là où elles habitent rend aussi les visites familiales difficiles et entraîne souvent des ruptures sociales et affectives. Les personnes transgenres voient souvent leur identité de genre niée, les exposant à des violences de la part des autres détenus ou du personnel. Et bien souvent, l'accès à un accompagnement adapté est inexistant, et pour celles qui prennent un traitement, sont souvent contraintes de l'arrêter. On a demandé à Gwenaëlla ce qu'elle en pensait.
Alors, déjà, il faut dire que la prison, elle n'a pas été pensée pour les femmes. Elle a été pensée pour les hommes, par des hommes, et que les femmes ont toujours été traitées comme des anomalités. Hein, pas juste de la France, hein, c'est quelque chose d'assez général dans l'histoire des prisons, même si aujourd'hui, on est dans un moment un petit peu différent, avec des prisons qui commencent à se prétendre, quelle est l'expression en français gender mainstreaming, c'est-à-dire prenant en compte les besoins des femmes. Mais d'une façon générale, on peut dire que les femmes ont toujours été traitées comme une population particulière, une population finalement un petit peu embarrassante. Et parmi les femmes, il y a une population qui a toujours été encore plus traitée comme très embarrassante, c'est les filles mineures, ou les jeunes femmes. Là, avec des standards différents de ceux appliqués aux jeunes majeurs ou aux hommes mineurs, hein, par exemple l'absence de quartier dédié, et donc par exemple le mélange entre femmes mineures et femmes majeures, chose qui n'existe pas normalement pour les hommes, en tout cas en France, mais c'est aussi quelque chose qu'on voit très souvent, hein, parmi les femmes, la question des mineurs. Alors, le fait que l'institution reproduise des normes hétéro-patriarcales, elle s'observe de plein de manières. Elle s'observe dans les activités proposées, dans les attentes de comportement, dans ce qui est attendu pour juger d'une réhabilitation ou en tout cas d'un bon comportement en détention. Ça s'observe beaucoup dans la focale qui est souvent mise sur la question des enfants. Hein, et du coup, ce qui est une réalité, hein, c'est que beaucoup de femmes incarcérées sont aussi des mères. Mais par exemple, autant il peut y avoir beaucoup d'attention à cette dimension-là dans les débats publics ou même l'idée de réforme de la détention des femmes, ou dans la question de la paternité des hommes est souvent excessivement accessoire. ça y fait assez peu de place dans les dossiers d'aménagement de peine ou dans même les défenses en fait au cours des procès.
Les personnes détenues sont bien sûr les premières victimes du système carcéral, mais on a trop souvent tendance à oublier les victimes secondaires. Les proches, les familles, qui continuent de s'occuper des personnes derrière les barreaux, sont le plus souvent des femmes. Si un jour vous vous rendez en prison, regardez la queue des parloirs pour rendre visite aux hommes en prison. Ce sont des femmes. Regardez la queue des parloirs chez les femmes, il n'y en a pas. Et quand il y a des visites, ce sont aussi quasiment toujours des femmes.
Alors, c'est vrai que la prison, en tout cas du point de vue des analyses sociologiques, du champ des études sur la prison, mais aussi dans les mobilisations politiques de prisonniers ou autour de la prison, se sont très largement focalisés sur la question de ce qui se passe à l'intérieur de la prison et de la condition des personnes détenues, ce qui évidemment est extrêmement logique au premier abord. Avec d'autres, je pense qu'il est important d'élargir la focale sans évidemment abandonner la question qui est bien celle de la libération des prisonniers et de la fin de l'enfermement, mais d'élargir la focale en disant que la prison n'est pas faite uniquement pour les gens qui sont enfermés. C'est-à-dire qu'il y a une portée, quand on évoquait tout à l'heure à quoi sert la prison, la prison, elle ne sert pas seulement à enfermer des gens, en fait, elle sert à discipliner des populations, à discipliner aussi des quartiers, pour en avoir une approche spatiale. Et quand on voit, et du coup c'était mon travail de thèse de sociologie il y a maintenant assez longtemps, mais c'était d'essayer, je ne suis pas la seule à avoir travaillé là-dessus, mais d'avoir travaillé sur les effets en fait de la peine d'incarcération, donc le prononcé d'une peine qui, d'un point de vue formel, ne devrait affecter que la personne condamnée, c'est ce qu'on appelle la personnalité de la peine en droit, cette idée que seule la personne condamnée effectue sa peine, on ne peut pas demander à un proche d'aller faire notre temps de prison à notre place, par exemple. On ne peut pas non plus demander à des gens de payer nos amendes. Mais cette personnalité de la peine, en fait, elle est remise en cause lorsqu'on regarde d'un point de vue matériel, financier, émotionnel, quels sont les effets de la peine sur des personnes qui n'ont pas été condamnées. Et là, ce que l'on observe, c'est que, effectivement, les proches font aussi une peine. Alors, il y a plein d'expressions qui sont utilisées pour dire ça. On parle d'une peine invisible, d'une autre peine, du travail émotionnel qui est effectué par les proches. Et donc, quand on élargit cette focale, et donc que l'on, tout en reconnaissant que parmi les personnes incarcérées, dans les pays occidentaux, on est souvent à moins de 5% de femmes. Par contre, lorsqu'on regarde qui sont les proches qui font ce travail de soutien, de solidarité, qui est affecté par l'impact matériel, financier d'avoir un proche incarcéré, là, on voit que c'est essentiellement des femmes. Et ça se voit très, très concrètement, qui va au parloir, essentiellement des femmes. Des compagnes, des sœurs, des mères, parfois même des collègues ou des voisines. Par contre, on voit très peu d'hommes, on voit très peu de pères, on voit très peu de compagnons aller voir les femmes incarcérées, ou voir y compris d'autres hommes incarcérés. Cette solidarité, elle est extrêmement genrée. Elle n'est pas propre à la prison, bien évidemment. Elle est là le reflet du patriarcat, avec des attentes sur les femmes de produire ce travail de solidarité, ce travail émotionnel. Et donc, on le voit aussi à l'occasion d'annonces de maladies graves, comment les femmes sont abandonnées, comment les hommes peuvent compter sur la solidarité des femmes en cas de maladie, en cas d'autres événements graves de leur vie.
We'll be right back.
que nous pensons, c'est que la prison est un outil inefficace et qui empêche de penser des réponses structurelles et durables. Interrogeons-nous maintenant sur la légitimité et la pertinence d'un système pénal fondé sur l'institutionnalisation de la vengeance, la prison, comme réponse à la criminalité. Alors lorsqu'on lutte contre un système patriarcal, pourquoi est-il nécessaire de sortir des logiques punitives et répressives telles que proposées par le système judiciaire et carcéral ? Les arguments en faveur de la prison comme réponse au VSS se basent sur un supposé besoin de répression, à la fois de la part de la société et des victimes, qui seraient assurées par la judiciarisation et l'enfermement. Ainsi, on part du postulat que la prison répondrait à un double objectif, celui de punir, d'abord, considérant que la sanction et la répression seraient les seuls moyens de réparer les victimes et d'obtenir la réhabilitation du délinquant, celui de protéger, ensuite, via l'enfermement, qui rendrait nos sociétés plus sûres et répondrait aux besoins de sécurité des victimes. On l'a vu avec la condamnation récente de Gérard Depardieu à purger l'intégralité de sa peine en milieu ouvert, et comme c'est systématiquement le cas avec les personnalités publiques ou politiques, la justice à deux vitesses condamne toujours les mêmes catégories de population, les classes populaires, les sans-papiers, les personnes racisées, avec la même sévérité et fait preuve du même laxisme envers la classe politique et bourgeoise. Plus largement, on serait tenté de s'interroger. En quoi la sanction carcérale permet-elle de réinsérer et de réhabiliter des personnes ? Est-ce qu'elle permet vraiment de lutter contre la récidive ? Est-ce que la prison protège réellement les victimes et la société ? Et d'ailleurs, est-ce véritablement sa fonction ? On a posé toutes ces questions à Prune.
Ce que tu dis ensuite sur la question de la protection de la société, c'est extrêmement juste, c'est-à-dire à partir du moment où on nous donne un objectif officiel de la prison, mais qu'on voit qu'il peut être aménagé selon la personne autrice des VSS, ça pose la question de la réalité de cet objectif-là, voilà, de la protection. Et d'ailleurs, sur la question de la protection, la réalité, c'est que la prison, elle va agir en protection pendant un temps limité. Et on va revenir justement à qu'est-ce qui se passe pendant la prison, mais quand la personne va sortir, s'il n'y a eu aucun accompagnement et si toute la détention n'a fait qu'accentuer tous les facteurs qui ont pu participer d'une manière ou d'une autre à la commission des actes, en réalité, il n'y a aucune protection, mais au contraire, il y a une... On aggrave le terrain qui va favoriser la recommission de ces actes-là à la sortie. Donc en fait, on va recréer de l'insécurité, on va faciliter le fait qu'il y ait davantage de victimes de VSS. Donc assez contre-productif. J'ai pas de chiffres sur la récidive précise dans le cadre des VSS, mais en tout cas, de manière générale, en sortie de prison, on est à peu près à 60% de récidive dans les 5 ans. La véritable question, c'est pas tant comment ça se fait qu'il y ait autant de récidives, c'est plutôt comment font les personnes qui ne récidivent pas. Parce que souvent sur ces questions-là, on parle de la prison de manière très théorique, comme la punition par excellence, mais on questionne pas du tout ce à quoi ça renvoie en termes de réalité. La réalité, c'est que les auteurs de VSS sont principalement incarcérés, enfin les auteurs ou présumés d'ailleurs, parce qu'il y a quand même plus d'un quart des personnes détenues qui sont en détention provisoire. Donc les auteurs ou présumés sont incarcérés dans des maisons d'arrêt. Les maisons d'arrêt, c'est 70% de la population détenue, donc c'est la très grande majorité. Et ils y sont incarcérés dans un contexte de surpopulation carcérale dramatique, où on est aujourd'hui, on est à quasiment mi-2025, on est à peu près à 160% en moyenne dans ces lieux-là, sachant que ça peut être extrêmement variable. On atteint dans certains quartiers, certaines maisons d'arrêt, plus de 200%. Où ils sont incarcérés à 2, 3, voire 4 dans une cellule de 9 mètres carrés pendant 22 heures, 23 heures sur 24, avec un accès extrêmement limité à des activités, à un accompagnement aussi psychologique ou en addictologie. Et quand on sait que souvent, notamment, les questions d'addiction peuvent en tout cas participer de la commission de ces violences-là, ça questionne quand même largement de se dire qu'il n'y a même pas les moyens mis dans le traitement de ces questions-là. Et puis plus largement, de se dire sur la question des VSS, on enferme des hommes donc, qui ont commis ou présumé avoir commis des VSS, et on les enferme dans des lieux qui sont quasi exclusivement masculins, un lieu qui est extrêmement violent de par sa nature même, dans un état de promiscuité qui fait que cette violence va encore être plus accentuée, et où il y a tout un système quand même de domination et de rapport à la virilité qui caractérise quand même l'univers carcéral. Et on s'attend à ce que ces personnes-là, enfermées des mois ou des années dans ce milieu-là, en ressortent avec une déconstruction de toutes les normes de virilité, de patriarcat et de domination masculine. C'est quand même assez étrange de miser comme ça sur la prison.
Le système judiciaire agit systématiquement par des logiques de réaction, de répression, de réponse, de rejet, d'exclusion, alors que l'éducation, la prévention et la mise en place d'un système positif d'aide, d'assistance, d'encouragement seraient plus à même de favoriser des changements de comportement, de les éviter ou au moins d'éviter leur réitération. Qu'en est-il des victimes ? Est-ce que la prison a réellement pour objectif de répondre à leurs besoins de sécurité et de les réparer ? Eh bien non, l'État ne se soucie pas de protéger les victimes ou de les réparer, il les utilise pour se renforcer au gré de ses obsessions sécuritaires. La dureté des peines n'a cessé de s'accroître en même temps que de plus en plus de comportements sont pénalisés. Les victimes sont quant à elles objectivées et souvent maltraitées par le système policier, judiciaire et répressif, ce qui peut conduire à approfondir la blessure au lieu de la réparer. L'objectif du procès pénal n'est pas de donner du sens. Et il peut être une épreuve psychologique supplémentaire pour les victimes, parce qu'il conduit à rendre public et à ressasser encore des souvenirs intimes violents. Les récentes affaires Pellico et Depardieu en sont un exemple, avec des stratégies d'intimidation et d'humiliation menées par les avocats de la défense d'une extrême violence. On parle alors de victimisation secondaire pour exprimer le processus de destruction des victimes provoqué par le procès pénal, qui agit sur elles comme une double atteinte. La réponse aux besoins de sécurité des victimes que constitue l'enfermement des auteurs est incomplète, puisque quasiment aucune ressource n'est proposée, qu'elle soit psychologique ou matérielle, afin de permettre à la victime d'être moins vulnérable sur le long terme. Pourtant, ces besoins sont identifiables. Proposer ou faciliter l'accès d'urgence à un logement permanent et sûr, à l'éducation, à des solutions de garde d'enfants, à des ressources financières, à un emploi afin de permettre à la victime de rompre une situation de dépendance ou simplement de s'extraire du domicile conjugal s'il est le lieu d'exercice des violences. Proposer un accompagnement, des soins, afin de réparer des violences psychologiques ou physiques. Créer des infrastructures collectives favorisant le bien-être, l'activisme culturel et artistique, par exemple. Donc la logique de l'économie de la souffrance, visant à quantifier la souffrance des victimes en proposant un paiement en années de prison, sur le principe de la loi du talion et conduisant à penser l'apaisement des victimes par le fait d'infliger une souffrance en réaction à une souffrance est fortement discutable. Prune, qu'en est-il des besoins des victimes ?
Sur les victimes, ce que je trouve quand même intéressant, peut-être deux choses. D'abord que si on veut vraiment protéger les victimes de VSS, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on prenne aujourd'hui la mesure de l'ampleur des VSS dans la société. Et si on prend la mesure de l'ampleur des VSS et aujourd'hui du pourcentage extrêmement faible de femmes qui portent plainte, de personnes qui ensuite ont un procès, et s'il n'y a pas condamnation, si demain on souhaite que la parole continue de se libérer et qu'il y a un vrai traitement de tous ces faits-là qui sont soumis à la justice, en fait, il va falloir se préparer à incarcérer une très grande population masculine et beaucoup plus qu'aujourd'hui, et donc construire des tonnes de places de prison supplémentaires avec tout ce que ça implique d'inefficacité, de dépenses financières, de non-investissement sur toutes les autres choses qui pourraient véritablement lutter contre les VSS, et je pense notamment à tout ce qui est autour de l'éducation et de la sensibilisation. Et de se poser enfin les questions structurelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a autant de violences commises par des hommes. Et ça, la prison et le pénal n'a pas vocation à répondre à ces questions-là, en fait. On est sur un traitement individuel, sur la responsabilité de l'auteur, et il n'y a pas d'objectif du procès pénal de prendre en charge le parcours de la victime. Et d'ailleurs, le parcours de la victime, c'est, disons, de prendre en charge la victime, sa douleur, ce qu'elle a vécu. Et d'ailleurs, on le voit aussi, ça c'est pareil, plutôt des recherches qui ont été faites par d'autres personnes, mais qui montrent que les victimes se retrouvent très souvent à devoir financer, par exemple, leur expertise, et donc qu'en réalité, sous prétexte de le faire pour les victimes, dans le procès pénal, elles se retrouvent très démunies et très peu accompagnées. Et peut-être le deuxième point sur les victimes, c'est que nous, quand on a commencé à l'OIP à s'intéresser aux questions à la question du traitement pénal des VSS et de questionner le fait que la prison soit vraiment la solution la plus intéressante et la plus efficace et juste, c'est parce que donc d'une part, on avait vu au niveau des politiques pénales qu'il y avait toujours plus de personnes incarcérées, notamment pour des questions de violence conjugale, au point d'arriver autour de, en 2022, autour de 30% des personnes condamnées en prison qui l'étaient pour des questions de violence conjugale, et qu'en parallèle, on était sollicité à la permanence de l'OIP, donc là où on reçoit les sollicitations des personnes détenues et des proches, par des compagnes de personnes détenues qui nous disaient « l'administration pénitentiaire a suspendu mon droit de visite, m'interdit de rentrer en contact avec mon conjoint, et ces femmes souhaitaient le faire ». Et en fait, l'administration pénitentiaire prenait, en tout cas l'a fait à plusieurs occasions, prenait la décision, sans qu'il y ait de décision judiciaire, de protéger les victimes contre leur gré et de décider à leur place ce qui était bon pour elles. Et ça posait aussi toute la question de ces compagnes qui nous témoignaient du fait que, quand elles ont eu recours à la justice, elles ont demandé justement à être protégées, mais qu'elles ne voulaient pas que leur conjoint aille en détention pour des raisons extrêmement différentes selon les personnes, mais notamment pour certaines qui disaient... je me souviens d'un témoignage qui, moi, m'avait particulièrement frappé, d'une personne qui disait « On a tout essayé d'aller voir un coach de vie, un psychologue, un accompagnement, mais en fait, c'était trop cher. » Et donc, on s'est tourné vers le pénal, et la seule solution qu'on nous a proposée... c'est vraiment un euphémisme, mais c'est d'incarcérer mon conjoint, alors qu'il va y avoir aucun accompagnement de soins, et moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il y ait une prise en charge et qu'on l'aide, en fait, à lutter contre la violence qu'il commet et qui résulte aussi d'une intériorisation de la violence qu'il a subie dans le passé.
Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça parle du coup de comment la prison dessaisit les victimes de leur histoire individuelle, de leur propre histoire, pour proposer une solution qui finalement, enfin du coup on finit par se rendre compte que la prison et le système pénal en lui-même, ça va du tout pour objectif ni de protéger les victimes, ni de les réparer, mais plutôt, ni de réinsérer du coup les personnes qu'on l'a déjà vu avant, mais plutôt de répondre à, je sais pas, un besoin qui est celui de la société ou celui de ses représentants ou celui du système judiciaire de punir au nom de l'État et pas véritablement au nom des victimes, en fait. En tout cas, c'est pas du tout l'objectif.
Moi, je parlerais même d'un besoin électoraliste, peut-être, ouais. En premier.
Pour répondre à des discours rhétoriques... sur l'augmentation de la criminalité, de l'insécurité.
Oui, parce qu'on parle du besoin de la société et les politiciens, politiciennes se cachent beaucoup derrière cette opinion publique qui demanderait davantage de traiter la question de l'insécurité. La réalité, c'est que aujourd'hui, ils prennent des mesures contre cette insécurité, ou en tout cas ce discours sur l'insécurité qu'ils œuvrent eux-mêmes à rendre central au quotidien, en fait. Alors que toutes les études montrent qu'il n'y a pas d'augmentation de la délinquance qui pourrait expliquer aujourd'hui l'augmentation du nombre de personnes détenues. Et c'est, je trouve que le cas du traitement pénal des VSS est très intéressant là-dessus, parce que finalement on se retrouve avec des politiciens qui se servent de l'augmentation du nombre de dossiers déposés devant la justice pour dire « Regardez, il y a une augmentation de la délinquance ». Alors non, je crois pouvoir dire que les faits de VSS ne datent pas d'hier, seulement qu'il y a eu une petite libération de la parole qui a conduit à une augmentation, mais ça ne veut pas dire que la société est plus dangereuse qu'avant. Et il y a vraiment quelque chose autour de je vais nourrir, alimenter, accentuer ce discours sur l'insécurité, parce que derrière, ça va me permettre, moi, politicien, de me mettre dans une position de vous dire, regardez, j'ai une solution pour vous. Cette solution, elle est répressive, autoritaire, elle est sévère, et c'est la prison. Et en fait, c'est toujours la prison. Et c'est là où le traitement pénal des VSS, il s'inscrit vraiment dans une logique globale des politiques pénales en France, où quand on veut montrer qu'on prend en charge un sujet de société, on va proposer la prison. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, de manière théorique, sans jamais revenir sur de quoi on parle. En fait, c'est quoi la réalité de la prison et quel sens ça a d'incarcérer ces personnes.
Le féminisme pro-carcéral est bien souvent un féminisme blanc, bourgeois, hétérosexuel et qui considère que l'État et le système judiciaire et policier assurent aux femmes et aux minorités de genre une sécurité bienveillante, que les comportements que ces décideurs définissent comme mauvais répondent à la pluralité des formes que revêt l'oppression de genre et que la généralisation des poursuites judiciaires et des peines d'emprisonnement résoudra le problème systémique que constitue le patriarcat. Il résulte de la prévalence de ce féminisme une criminalisation accrue des groupes marginalisés et une négligence totale de la nécessité de répondre aux fondements structurels et institutionnels des violences de genre.
Présenter la prison comme la solution aux violences sexistes et sexuelles, c'est en réalité dépolitiser ces violences et fermer la porte à une véritable analyse de leurs causes profondes. La prison isole les actes de leur contexte social et évacue complètement toute réflexion sur les systèmes patriarcaux, capitalistes et racistes qui produisent ces violences. Cette approche punitive ne favorise pas non plus la construction de luttes collectives. En recentrant le débat sur les responsabilités individuelles, elle disperse les énergies et empêche d'attaquer les racines profondes du problème, comme la précarité économique nourrie par le capitalisme, le racisme ou encore les normes patriarcales. Du coup, la réponse se limite souvent à une accumulation de lois et de sanctions au lieu de viser une transformation sociale globale. Penser structurellement, ça veut dire comprendre que ces violences sont des symptômes d'un ordre social profondément inégalitaire. Ce n'est pas seulement se demander que fait-on de ces individus, mais surtout quel système engendre ces violences et comment peut-on le changer. Ça ne peut surtout pas dire ignorer les victimes ou minimiser la gravité des actes. Au contraire, cela signifie qu'on doit imaginer des réponses collectives et politiques qui s'attaquent directement à ce système qui fabrique et alimente ces violences.
Oui, je pense que c'est important de dire que le patriarcat... C'est à la fois un système économique, mais c'est aussi des crimes de masse. Hein, c'est pas des actes individuels, en fait, c'est un phénomène de masse. Et qu'on ne peut pas résoudre un système ou un crime de masse, en fait, en désignant simplement certains individus qui, en plus, sont généralement ceux qui ont le moins de pouvoir dans ce système-là. Fin de la parenthèse. Donc, pour moi, on ne peut pas résoudre le patriarcat par la prison. En fait, ça n'a pas de sens. Et justement, la prison est extrêmement utile dans la défense du patriarcat parce que elle permet de distinguer ce que seraient des bons hommes de ce que seraient des mauvais hommes, finalement. Hein, de la même façon que la condamnation de Derek Chauvin, hein, le meurtrier de George Floyd, est extrêmement pratique et les syndicats de police s'en sont réjouis parce que ça permet de désigner de mauvais policiers et de ne pas parler de la police en général. Mmh. Et donc, on a là, à mon avis, fondamentalement, la question de, finalement, contre quoi on se bat et de quelle manière, en fait, on peut rendre des coups au patriarcat. Est-ce qu'on rend vraiment des coups au patriarcat quand on incarcère certains hommes, certains auteurs de victimes de violences faites aux femmes. Alors, à mon sens, non. On protège de manière temporaire certaines femmes, on répond d'une certaine manière à leurs besoins de justice. À mon avis, on y répond très mal et parfois, on crée d'autres formes de victimation avec le processus pénal. Mais en fait, quand on utilise le système pénal, finalement, on passe à côté de la question de la matérialité du patriarcat. On passe, par exemple, à côté d'une question qui est pourtant si évidente, qui est la question de l'égalité financière matérielle entre les hommes et les femmes. Hein, moi, ça me paraît quand même totalement scandaleux qu'en fait, il n'y ait aucun pays dans le monde dans lequel il y ait une égalité salariale. hein, et que ça nous est quand même toujours présenté comme quelque chose qui serait dans le futur, un but à atteindre un jour. Enfin, moi, j'ai toujours entendu ça. Et du coup, une vraie égalité salariale, matérielle, une vraie création de choix, de possibilités de choix pour les femmes, me semble beaucoup plus important pour voilà, faire reculer un petit peu le patriarcat, faire reculer les violences faites aux femmes, que toutes les mesures qu'ils vont pouvoir nous proposer, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que ce qu'ils nous proposent, hein, que ce soit le féminisme mainstream ou Darmanin et autres ministres de la justice et de l'intérieur, c'est quand ils disent oui, on va prendre ça, on va prendre des violences faites aux femmes sérieusement, il faut porter plainte, hein, en culpabilisant les femmes qui ne pourraient pas porter plainte, ne voudraient pas porter plainte, quand ils nous proposent ça, ils nous proposent tout simplement de recouvrir en fait notre pays de prison pour essayer de résoudre un crime de masse, un crime qui fait système, hein, puisque on évalue les viols à plus de 100 000, hein, si je me souviens bien, 100 000 par an. Il faudrait mettre 100 000 hommes en prison chaque année. S'il fallait mettre tous les auteurs de violences faites aux femmes en prison, on serait, il faudrait en fait avoir des centaines de milliers de places de prison. Ce projet, on sait qu'il est irréaliste. En fait, il est irréaliste, mais il sert en fait à nourrir la logique carcérale, à nourrir ce mythe qu'il y aurait des hommes qui pourraient être l'allié des luttes antipatriarcales, et que finalement, la question des violences faites aux femmes serait juste la question de certains hommes. Et du coup, pour moi, l'enjeu la critique qu'on peut faire du féminisme mainstream, c'est pas simplement que elle s'illusionnerait, hein, en pensant résoudre les violences faites aux femmes en recourant davantage à la prison, mais c'est que finalement elles forment une alliance utile, hein, avec la manière dont le capitalisme se réorganise, fait sa propre promotion, hein, au fil en fait du renouvellement de ce qui fait l'attention du public, l'évolution des sensibilités. Et c'est pour moi évidemment l'aspect le plus dangereux, le plus néfaste, celui qui doit être dénoncé.
Pendant cette émission, on a essayé de vous expliquer pourquoi on pense que la prison ne peut pas être une solution face aux violences sexistes et sexuelles. Elle est un outil d'exclusion sociale au service de l'ordre bourgeois qui reproduit et renforce le patriarcat tout en criminalisant celles et ceux que le système ne parvient ni à exploiter ni à intégrer. Elle ne répond pas non plus aux missions qu'elle est censée accomplir, comme répondre aux besoins des victimes, et n'apporte aucune solution aux racines structurelles de ces violences.
Rester au niveau individuel et réactionnel au VSS impose de répéter sans fin des procédures et des poursuites judiciaires, en rendant impossible l'éradication de ces violences dans nos sociétés et en garantissant ainsi notre dépendance aux structures de maintien de l'ordre.
Penser l'abolition carcérale, c'est s'engager dans une transformation profonde de notre société. Sortir des logiques punitives, construire des réponses collectives, basées sur la solidarité, la prévention, le soin et la justice sociale. Abolir la prison, c'est rompre avec un outil central de l'État capitaliste pour discipliner les classes populaires et protéger l'ordre bourgeois. C'est affirmer que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne peut être dissociée de la lutte contre l'exploitation, pour une société libérée du patriarcat et du capital.
Cet épisode est déjà fini. Si ça vous a plu, on vous propose de suivre les féministes révolutionnaires sur les réseaux sociaux afin d'être tenu informé de nos actualités et de vous manifester en commentaire si vous souhaitez plus d'épisodes sur la thématique féminisme et anticarcéralisme.
N'hésitez pas à réécouter l'émission qui sera bientôt disponible en replay sur la chaîne YouTube des féministes révolutionnaires, d'y réagir et de la partager autour de vous.
On espère vous avoir donné envie d'approfondir le sujet. Si vous souhaitez poursuivre avec nous l'analyse, voici quelques thématiques qu'on aimerait aborder lors des prochains épisodes. Les perspectives et alternatives au système carcéral, l'abolition du système pénal et de la police, la prison comme système au service du capitalisme, la pénalisation des femmes et des minorités de genre. N'hésitez pas à nous proposer d'autres thématiques en commentaire.
valeur et fais dodo.
Tapis dans le caniveau parmi les vers et les crapauds. Je guette les voyageurs dans l'ombre. J'attends mon heure, je suis la goule. Je suis la goule. Si t'as de beaux mollets, prends garde, je vais attaquer. J'enlève mes guenilles, j'entonne ma mélodie. Je suis la goule. Je suis la goule. Ma voix est un sirop avale et fait dodo. Je suis la goule. Je pond mes œufs dans ton. Cherche et tu trouveras sans doute un pote. À toi, je suis la goule. Je suis la goule. Le pauvre, il n'a pas su flairer le parfum alarmant des crétins qui avant lui ont succombé à mon chant. Je suis la goule. Je suis la goule.
Dans ton sommeil, c'est plus rond.